Vous écoutez RTL. RTL Midi.
Le 12-30.
Bénédicte Tassard.
Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans RTL Midi. Et voici les titres de l'actualité de ce jeudi 28 février. 4% de hausse pour les 100 produits les plus vendus en hypermarché, mais des marques distributeurs moins chères depuis le vote de la loi alimentation. Sur RTL, le PDG de Carrefour calme le jeu. Un point exact sur le coût de votre panier de courses dans ce journal. Et pour réagir, premier invité de RTL Midi, Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération Paysanne. Les cigarettes, elles, plus chères dès demain, de 50 à 60 centimes d'euros le paquet. À la recherche de la vérité, le comité de soutien de la famille de Le Tan réunit ce matin devant la cour d'appel de Colmar. Le principal suspect de la disparition de la jeune fille réclame sa libération. Un sommet pour rien, la rencontre Trump-Kim Jong-un tourne court. Aucun accord sur la fin du nucléaire en Corée du Nord. Une procureure, une colonelle, une sapeuse-pompière, mais un mannequin. Les mots relatifs au métier féminin revus et corrigés par l'Académie française. Avec nous, Muriel Gilbert, qui nous fait réviser le français tous les week-ends sur RTL. La météo, bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour.
Les nuages et la pluie sont bien là.
Ah oui, et les nuages vont gagner du terrain cet après-midi sur une bonne partie du pays. En ce moment, on a quelques averses sur les côtes de la Manche et sur le nord-ouest. Mais ces averses vont se multiplier cet après-midi sur une large moitié nord, localement soutenue, avec parfois un caractère orageux au nord de la Seine. Et puis le vent s'est levé, ça souffle sur la moitié nord du pays, jusqu'à 60 km/h en rafale. Alors que dans le sud-est, c'est encore une belle journée, plein soleil entre les Alpes et la Méditerranée, avec des températures qui baissent, ça y est, cet après-midi. 13 degrés à Cherbourg et La Rochelle, 14 à Brest, 15 à Paris, 17 à Bordeaux, 19 à Toulon et 22 à Marseille.
Plus de détails à la fin de ce journal. Merci Patricia. La question du jour sur RTL.fr. Écrivaine, sapeuse-pompière, autrice, faut-il davantage féminiser les noms de métiers? Vous dites oui à 18% seulement, non à 77%. Vos appels au 3210, vos réactions sur Facebook, Twitter. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour Bénédicte. Quel dommage parce que sapeuse-pompière, voilà. Ah, c'est élégant, c'est nouveau, c'est sympathique. Donc en tout cas, vous pourrez donner votre avis au 3210. Autre question, Robert Ménard interdit les drapeaux étrangers lors des mariages et a instauré une charte de bonne conduite. Qu'en pensez-vous? Alimentation, achetez-vous en priorité des produits français? Puis on pourra également parler des cigarettes puisque le prix des cigarettes va augmenter de 50 à 60 centimes dès vendredi.
On en reparle à partir de 13h.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
Si vous êtes à table, les aliments de votre assiette sont sans doute plus chers depuis le vote de la loi alimentation en octobre dernier. C'est un texte qui rééquilibrait les forces entre les agriculteurs, les industriels, les distributeurs. Michel-Édouard Leclerc, souvenez-vous, dénonçait récemment des tarifs qui allaient s'envoler. Plus de peur que de mal, lui répond aujourd'hui le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard.
Ce cher Michel-Édouard Leclerc s'est trompé. Il nous a annoncé pendant 6 mois, 9 mois, à coup d'études d'ailleurs, il y aura des milliards d'euros d'augmentation de prix pour les Français, une perte de pouvoir d'achat, une inflation généralisée. Qu'est-ce qu'on voit? Ça fait même pas 3 semaines. Quand on regarde les prix chez Carrefour, ils ont dû augmenter de 1% depuis la loi. Chez Leclerc, ils ont augmenté de plus de 5-7%. Donc vous voyez, ça, notre ami Michel Leclerc, que j'aime beaucoup, s'était trompé.
Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, avec Elisabeth Martichoux ce matin sur RTL. Alors, 1% de hausse chez Carrefour, 5 à 7% chez Leclerc. Armelle Lévy, est-ce qu'on peut vérifier ces chiffres? Est-ce que la loi alimentation a joué sur notre pouvoir d'achat?
RTL vient de se procurer les tout derniers chiffres du cabinet d'études indépendant Nielsen. Et depuis le 1er février, depuis la nouvelle loi, c'est vrai, dans le top 100 des références les plus vendues, Nutella, Ricard, Coca-Cola, Carte Noire, Danone, les prix ont augmenté de 4% en moyenne, avec des pics à 7% dans les enseignes les moins chères. Parce que maintenant, avec un prix plancher, les enseignes les moins chères doivent remonter les prix et elles partaient de plus bas. Donc la hausse est bel et bien réelle sur certaines références, mais attention, ces produits les plus emblématiques ne représentent qu'une infime partie de l'assortiment des enseignes. Si on regarde l'ensemble des références des magasins, le prix des grandes marques n'a augmenté finalement que de 0,3%. Et les marques propres des distributeurs comme Carrefour, Marc Leclerc et les autres ont baissé de 0,2%. Donc, l'un dans l'autre. Cela compense, mais il faut encore attendre. La loi n'est effective que depuis le 1er février et les négociations commerciales entre fournisseurs et magasins se terminent demain.
Merci Armelle Lévy du service économie de RTL. Et pour discuter des prix de ce dernier jour de négociations commerciales entre la grande distribution et les industries agroalimentaires, on s'arrête sur l'opinion des agriculteurs. Invité de RTL Midi, Laurent Pinatel, le porte-parole de la Confédération Paysanne. Bonjour.
Bonjour.
Dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques heures donc de la fin de ces négociations commerciales d'abord ?
Alors, déjà, il y a le concept de la négociation commerciale qui est un peu délirant, là. On amuse tout le monde depuis le mois d'octobre, novembre, à dire, voilà, il faut absolument qu'au 1er mars, on signe. On a l'impression que c'est l'affaire du siècle. Alors qu'en fait, on devrait avoir une fluidité dans les négociations commerciales au fil de l'eau et surtout une transparence. Nous, on demande à la Confédération Paysanne une totale transparence dans la fixation des prix.
Vous dénoncez la dramatisation.
Bah oui, ils se mettent en scène. Enfin là, bon père Leclerc qui se clash. Oui, moi je l'aime bien, hein, Michel-Edouard Leclerc, mais enfin quand même, il augmente ses prix. Enfin bon, on va prendre un peu de hauteur. Nous, cette loi, elle devait redonner du revenu aux paysans sans augmenter le prix aux consommateurs. Aujourd'hui, on voit que le prix aux consommateurs augmente, même s'il est de façon peu significative, il augmente. Et on s'aperçoit aussi qu'en fait, les paysans n'ont pas été entendus dans cette loi-là. Emmanuel Macron avait dit au mois d'octobre 2017 à Rungis, on va partir du coût de production des producteurs et on va fixer le prix derrière. Et aujourd'hui, tous les contrats qui se signent, même les contrats qui se signent plutôt à la hausse comme dans le lait de vache, ces contrats-là ne rémunèrent pas correctement les producteurs.
C'est-à-dire, quels premiers effets ? Vous constatez quoi exactement ?
Eh bien, on constate rien en fait. Je crois que c'est ça le problème.
Ça ne bouge pas.
On constate rien, ça ne bouge pas. Aujourd'hui, on nous annonce que oui, on a gagné un centime du litre de là ici, un centime de là. Est-ce que c'est sur de la marque, de la grande marque ? Est-ce que c'est sur des marques de distributeurs ? Enfin, c'est très très flou. Nous, ce qu'on aurait aimé vraiment, c'est définir les coûts de production des paysans et des paysannes, et à partir de là, que la grande distribution et la grande transformation s'arrangent entre eux pour se répartir le reste de la marge à créer.
On a fait le chemin à l'envers.
On a fait le chemin à l'envers, alors que le président de la République, Emmanuel Macron, nous a dit « on va partir du coût de revenu des producteurs ». On l'a pas fait. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même une pression terrible entre la grande distribution et la grande transformation pour se répartir l'argent généré par le fruit de notre travail, à nous, paysans, paysannes. Et il faut quand même rappeler que dans ce pays, il y a énormément de paysans, énormément de paysannes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il y a un désarroi dans les campagnes très fort qu'on ne peut pas taire aujourd'hui. Et comment on arrive à faire en sorte que ces géants de l'agroalimentaire qui se partagent des montagnes de pognon, ils arrivent à faire que nous, on ait de quoi vivre. Quoi. Il est là l'enjeu.
C'est-à-dire, Laurent Pinatel, vous accusez les géants de l'agroalimentaire ou la grande distribution ?
Bah, les deux. De toute façon, les fortunes, elles se créent dans les deux camps. Hein. Quand on regarde l'agroalimentaire aujourd'hui, là où il y a des difficultés dans les négociations commerciales, c'est dans le domaine de la viande. Le domaine de la viande, qui est aujourd'hui l'opérateur numéro un sur la viande, c'est Bigard. Bah Bigard, je veux dire, il a fait fortune, le mec. Il a fait fortune sur le dos des paysans qui crèvent. Donc là, il y a quand même de l'argent à redistribuer. Et après, il me semble que la grande distribution, grosso modo, ils sont pas non plus à plaindre. Ce qui est sûr, c'est que sur toute la chaîne, entre le consommateur et le paysan, ou entre le paysan et le consommateur, il y a de la richesse qui est créée. Et cette richesse-là, elle est très, très mal répartie. Et
l'enjeu Donc Laurent Pinatel, nous, consommateurs, nos prix, les prix des produits qu'on achète ont légèrement augmenté ou un peu plus augmenté. Et vous n'avez pas été augmenté. Donc c'est un ratage complet.
Eh ben, ça a été augmenté légèrement sur le lait, mais pas assez pour permettre aux paysans de vivre. Et après, sur le reste, c'est un ratage complet. Oui, parce qu'en fait, on a pensé que ça suffirait. Le fait qu'on va leur dire, faites plus de marge, et puis si vous êtes gentils, vous le redistribuez aux paysans. En fait, ils sont pas gentils du tout, vu qu'ils ont tout gardé pour eux. Et après, il y a aussi le concept de qu'attend le consommateur de l'agriculture française. Aujourd'hui, ils attendent une agriculture de meilleure qualité, à des prix accessibles. On n'a pas enclenché le mouvement de transition agricole, on n'a pas enclenché le mouvement de réinstallation de nouveaux paysans. Il y a 450 000 paysans paysannes en France. Nous, à la Confédération Paysanne, on pense que s'il faut, si on veut des produits de qualité, on veut des produits de qualité de partout, il faut passer le cap du million de paysans. Il faut réinstaller des paysans et des paysannes de partout.
Merci Laurent Pinatel. On en reparle de toute façon demain dans RTL Midi, puisque RTL Midi sera au Salon de l'Agriculture. Merci d'avoir été l'invité de RTL Midi. Et on reste dans ce salon. Côté politique, cette fois ce matin, c'est la présidente du Rassemblement National qui est venue discuter avec les agriculteurs, goûter les produits locaux. caresser le flanc des vaches. Marine Le Pen est là depuis 10 heures ce matin, Vincent Derosier, et elle surjoue, on peut le dire, son aisance avec les agriculteurs.
Oui, Marine Le Pen veut montrer qu'elle connaît absolument tous les problèmes des agriculteurs et avec les animaux. Et imminence, la vache star du salon, elle joue les habitués.
Ah, oh, laissez-la tranquille, la pauvre. Oh non, vous n'avez pas fait que vous me moquiez, lui taper dessus pour qu'elle se lève. Elle est comme moi, elle est sereine et tranquille.
La présidente du Rassemblement National prend le temps de féliciter tous les jeunes agriculteurs qu'elle croise.
J'aime bien voir des jeunes, moi, comme ça, ça fait plaisir.
Et avec les professionnels plus expérimentés, elle fait preuve d'empathie.
On s'occupe bien moins des paysans que des animaux en France.
Ouais, vous avez parfaitement raison de le rappeler. Et pourtant, on sent qu'est-ce que votre métier est essentiel.
Mais Marine Le Pen est là aussi et surtout pour préparer les élections européennes.
Le combat, nous allons le mener au sein du Parlement européen.
Et à ses yeux, le responsable du malheur de la profession, c'est Emmanuel Macron.
Moi, je me souviens, pendant la campagne présidentielle, on disait, vous allez voir, avec Le Pen, ça va être le chaos et la baisse des aides de l'agriculture. Bon, bah, il se trouve que c'est Macron, c'est le chaos et la baisse des aides. Donc, moi, je suis désolé, mais je considère que l'argent des Français doit aller plutôt aux paysans qu'aux migrants.
Des phrases choc répétées de stand en stand, même si, pour l'instant, sa visite n'a provoqué ni sifflet ni applaudissement.
Vincent Derosier au Salon de l'agriculture pour RTL. Le gouvernement, lui, ne recule pas devant le mécontentement de l'opinion publique sur le pouvoir d'achat. Les cigarettes seront bien plus chères dès demain, comme prévu. Ce sera 50 à 60 centimes de plus par paquet, Marie Guerrier.
Oui, 50 centimes, c'est le montant de la hausse des taxes fixée par l'État. Mais sur certains paquets, l'augmentation sera même de 60 centimes parce que le cigarettier Philippe Maurice ajoute 10 centimes pour compenser la baisse des ventes en volume qu'il voit déjà arriver. Il y a un an, le gouvernement avait déjà fortement relevé les taxes et les ventes avaient alors chuté de plus de 9%. Donc à partir de demain, le prix moyen d'un paquet de 20 cigarettes sera de 8,50 €. C'est la huitième révision des prix du tabac depuis le début du quinquennat Macron pour faire baisser la consommation. Ça ne va pas s'arrêter là. Une autre hausse de 50 centimes est prévue en novembre, puis deux autres encore l'année prochaine pour atteindre à la fin 2020 une moyenne de 10 € le paquet. Les taxes sur le tabac ont rapporté de l'ordre de 15 milliards d'euros en 2018.
Marie Guerrier du service économie de RTL. Une pause et dans un instant, les proches de Sophie Le Tan suspendus à la demande de mise en liberté du principal suspect.
RTL Midi, Bénédicte Tassard.
C'est l'attente devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Colmar où Jean-Marc Reiser réclame actuellement sa remise en liberté. Il est en détention depuis la mi-septembre. Le suspect de la disparition de la jeune Sophie Le Tan est devant les juges pour soutenir qu'il n'a rien à voir avec cette affaire. L'étudiante de 20 ans est introuvable depuis 6 mois maintenant à Strasbourg. Et à l'extérieur, Dimitri Ramelot, le comité de soutien de la famille Le Tan réclame toujours la vérité.
Oui, une trentaine de membres de la famille et des amis brandissent des pancartes telles que « La vérité pour Sophie », tous autour de la maman de la jeune fille, émue aux larmes.
Cette personne, si elle est laissée en liberté, serait très dangereuse pour les femmes. Et ce serait une douleur en plus pour nous. Je n'arrête pas de chercher Sophie, tout le temps, partout. Grâce au soutien du comité autour de nous, des amis et de la famille, je reste debout, même si je suis abattue par la disparition de ma fille.
Et en attendant la fin de l'audience, des cris pour se faire entendre depuis l'intérieur du tribunal.
Justice !
Pour Sophie !
La vérité !
Pour Sophie !
Et l'avocat de la famille, maître Gérard Welzer, d'essayer de rassurer avant l'audience de 10h30.
Les charges sont accablantes. Pour la famille et pour le dossier, la culpabilité ne fait aucun doute. Donc, pour moi, non. Il n'y a pas de suspense.
La décision devrait être connue dans le courant de l'après-midi.
Dimitri Ramelot à Colmar pour RTL. Un gilet jaune condamné à 3 ans et 3 mois de prison ferme pour violence sur des CRS pendant les manifestations de janvier dernier à Caen. 12 chefs d'infraction dont des tirs de billes avec un lance-pierre. L'homme avait déjà 18 condamnations dans son casier judiciaire. Il a été immédiatement écroué. Probable comparution immédiate cet après-midi aussi pour homicide involontaire du gendarme responsable d'un accident mortel hier à Bourgoin-Jallieu dans l'Isère. En état d'ébriété alors qu'il roulait hors service. Cet homme a tué dans une collision 2 retraités. Cette audience aujourd'hui, c'est du moins la volonté du parquet, nous informe notre correspondant dans la région, Serge Puyot. Et puis c'est une journée dédiée à l'accompagnement des chômeurs aujourd'hui sur RTL. Comment aider ceux qui sont très éloignés de l'emploi ? Comment mieux les insérer ? Alors depuis 4 ans, Pôle emploi développe l'accompagnement global. Par exemple à Strasbourg, Yannick Collant, dans le quartier de la Méno, chaque chômeur est en binôme avec un agent.
C'est grâce à ce système d'accompagnement global que Martin Tanga est aujourd'hui en CDI comme agent de sécurité, car il y a un an, il partait de très loin pour avoir un emploi. Nathalie Ndaka, sa conseillère Pôle emploi.
Le frein de monsieur, c'était au niveau du logement.
Non, je n'en avais pas. Je dormais chez un ami.
Du coup, par rapport au logement, effectivement, je l'orientais vers l'assistante sociale.
Résoudre les problèmes administratifs, c'est le rôle de Rachel Rostalski, l'assistante sociale.
Alors, la question de l'emploi et du logement, effectivement, c'est vraiment deux volets qui doivent être menés conjointement.
Martin Tanga retrouve un logement. Il est ensuite entraîné par sa conseillère Pôle emploi pour réussir les concours d'agent de sécurité.
Elle m'a préparé pendant des jours et des jours. Je suis parti, j'ai réussi.
Dernière difficulté pour son retour à l'emploi, le permis dans son entreprise, c'est important de l'avoir. Et là encore, c'est grâce à l'accompagnement global qu'il va pouvoir le passer.
J'ai reparlé avec Nathalie, je lui ai dit, ben, là, tu sais bien que là-bas, on demande le permis. Elle m'a dit, on va monter un dossier.
Comme c'est des personnes qu'on connaît, parce que c'est des personnes qu'on suit assez souvent, on a vraiment la possibilité de mettre beaucoup plus de choses en place.
Puis je suis parti monter au patron. Et je crois que c'est même ça qui l'a motivé à me donner le CDI.
Au Pôle emploi de la Méno, les résultats de cet accompagnement global sont très bons. 58% des personnes suivies retrouvent un emploi et 26% en CDI.
Yannick Collant à Strasbourg pour RTL. Et comme chaque mois, retrouvez sur le site RTL.fr notre page Les PME recrutent 57 400 offres en partenariat avec Facebook, la CPME et Workforce. Une pause et dans un instant, le flop du sommet USA-Corée du Nord.
RTL Midi, Bénédicte Tassard.
Midi et 49 minutes sur RTL. Je m'envole vers un endroit merveilleux appelé Washington. À 7h, le président américain devrait encore être à Hanoï, en train de donner une conférence de presse sur le sommet USA-Corée du Nord, sur la dénucléarisation de Pyongyang. Mais tout s'est terminé plus vite que prévu et Donald Trump est déjà dans son avion. C'est donc un échec. Philippe Dova, pourquoi les deux hommes se sont dit non ?
Eh bien, très certainement, Bénédicte, en raison d'un coup de poker joué subtilement par Kim Jong-un ce matin, auquel Donald Trump ne s'attendait pas a priori. Depuis le début du sommet hier, les deux dirigeants avaient multiplié les déclarations de bonnes intentions et d'amitié réciproque. Seulement voilà, Donald Trump n'a pas pu accepter la levée des sanctions économiques exigées par son ami comme condition préalable à tout accord de dénucléarisation hypothétique de la Corée du Nord. On ne pouvait pas faire ça et il faut parfois quitter les négociations, a déclaré visiblement abattu le président américain lors de sa conférence de presse avant de s'envoler pour les États-Unis. Pas de signature d'accord, pas de nouvelles rencontres en perspective, et même si, comme l'a indiqué la porte-parole de la Maison-Blanche, les équipes respectives des deux protagonistes ont hâte de se rencontrer à nouveau, aucune date n'a été annoncée. Le sommet de Hanoï devrait rester dans l'histoire comme celui de l'échec, mais avec Donald Trump et Kim Jong-un comme acteurs principaux, il n'est pas interdit de se demander si son scénario n'avait pas été écrit à l'avance, et la mise en scène, pour le coup, parfaitement respecté.
Philippe Dova, Hanoï, pour RTL. En Algérie, une dizaine de journalistes interpellés aujourd'hui dans le centre d'Alger. Une centaine de représentants de la presse étaient rassemblés pour dénoncer les pressions sur la couverture du mouvement de contestation contre Abdelaziz Bouteflika. La France, condamnée pour le traitement dégradant d'un jeune Afghan de 12 ans. La Cour européenne des droits de l'homme estime que cet enfant a vécu plusieurs mois dans un bidonville, un environnement totalement inadapté à sa condition lors du démantèlement d'un camp à Calais en 2016. Les juges précisent aussi ne pas être convaincus de la bonne volonté des autorités françaises. La France est donc condamnée à verser 15 000 euros pour dommages moraux à cet adolescent qui vit depuis en Grande-Bretagne. Amis des vieilles pierres, c'est reparti pour le loto du patrimoine. L'année dernière, 22 millions d'euros ont été reversés par la Française des Jeux à la Fondation du patrimoine. Vous étiez 2 millions de joueurs. Cette fois, il y a 118 monuments en péril à financer des monuments prochainement désignés. Et l'édition 2019, Sophie Orange affiche deux nouveautés.
Alors la première nouveauté, c'est un tirage du loto le 14 juillet. L'an dernier, ce super loto avait eu lieu au moment des Journées du patrimoine en septembre. Donc, cette fois-ci, la Française des Jeux choisit un moment symbolique, festif, au début de l'été. Objectif, faire mieux qu'en 2018, attirer plus de 14 millions de joueurs pour une mise de 3 euros. Vous pourrez gagner un jackpot à 13 millions d'euros. Deuxième nouveauté, c'est un nouveau jeu de grattage. Vous vous souvenez, pour la première édition, on pouvait acheter des tickets à 15 euros. Beaucoup avaient dit, c'est trop cher, ça marchera pas. Et il se trouve qu'en fait, ça a été un très gros succès, près de 3 millions de joueurs. En 2019, on pourra toujours tenter notre chance avec ce ticket. Mais Stéphane Palaise, la patronne de la Française des Jeux, a annoncé ce matin sur RTL avec Yves Calvi un nouveau ticket à 3 euros.
Ce qu'on pense, c'est qu'on peut encore aller chercher plus de clients. Oui. Donc on a entendu qu'il y a des gens qui nous disaient « Moi, j'aurais bien joué, mais j'aurais peut-être joué avec un ticket moins cher. »
Moins cher, bien sûr.
Donc l'idée, c'est d'être au moins au niveau de cette année, c'est-à-dire 22 millions, et j'espère évidemment plus que ça devienne une tradition nationale que de jouer pour le patrimoine.
Et sur ces 3,50 euros seront reversés directement à la Fondation du patrimoine. Les 118 monuments concernés cette année seront dévoilés dans quelques jours. Églises, théâtres, patrimoine industriel, ancienne école, pont de pierre, château, toutes les régions de France seront concernées.
Merci, les précisions de Sophie Orange. Un rapport de 20 pages remis aux immortels cet après-midi. Un rapport qui préconise enfin la féminisation des noms de métiers. Certains membres de l'Académie française plaidaient depuis un certain temps déjà pour une réouverture du débat. La France n'est pas en avance. Au Québec, cela fait 40 ans maintenant que les mots chef, 2F, E, écrivaine ou ingénieur, re, ont droit de citer. En France, il y a l'usage, il y a la règle. Une règle qui va donc évoluer. Invité de RTL Midi, notre professeur de français sur RTL, Muriel Gilbert, qu'on retrouve tous les samedis et les dimanches matins pour sa chronique Un bonbon sur la langue. Bonjour Muriel.
Bonjour, professeur Re.
Professeur Re, exactement. Est-ce que vous êtes favorable à cette féminisation des noms de métiers ?
En fait, je suis favorable, mais en même temps, on peut même pas, c'est pas une question de être favorable ou non. Elle se fait, cette évolution, en fait. Ce qui compte, c'est l'usage. Alors, c'est vrai que l'Académie, là, est en train de rattraper tout le reste de la société française qui avait déjà effectué ce passage. En fait, dans les dictionnaires, vous avez déjà une auteure. Enfin, les dictionnaires sont pas forcément d'accord entre eux, d'ailleurs, hein, mais le Larousse dit une auteure, tandis que le Robert dit une autrice.
Ou une auteure ou une autrice.
Eh bien, retenez
on
que vous
dire
avez
les
le
deux.
Faire les deux. C'est à chacun de faire son choix. Au Monde où je travaille, donc je suis correctrice au journal Le Monde quand je ne suis pas sur RTL. Au Monde, nous avons fait le choix de une auteure parce qu'il nous semble que cet usage est mieux passé dans l'usage. Voilà, justement. Mais les deux sont admissibles.
Donc il faut les utiliser et encore les utiliser pour que ça rentre dans nos habitudes.
Et ben voilà, ou en tout cas si on ne veut pas les utiliser, comment vous dire, c'est les gens justement qui font les francophones qui font les dictionnaires. On se figure que les dictionnaires ou l'Académie nous donnent des ordres et des lois. En fait, c'est l'inverse. L'Académie, comme les dictionnaires, finalement, prennent ce qui se passe dans la rue, ce que la rue a décidé d'appliquer ou non. S'il y a des féminisations qui ne passent pas du tout, eh bien, elles sortiront des dictionnaires,
sortiront.
Si vous voulez, même si on essaye de les y mettre.
Voilà. Alors, pour les politiques, faut-il dire Madame la maire ou Madame le maire ?
Eh bien, vous avez vu qu'Anne Hidalgo, quand elle a été élue, a dit dès le premier jour « Vous m'appellerez Madame la maire » et ça n'a posé aucun problème. Alors que, par exemple, dans les années, au début des années 1990, quand Martine Aubry était ministre et qu'elle avait demandé à ce qu'on l'appelle Madame la ministre, les académiciens, d'ailleurs, à l'époque, avaient écrit au président de la République en disant que la langue française était menacée. Mmh. Et puis, ensuite... C'est devenu tout à fait évident qu'on les appellerait Madame la ministre parce que ces femmes le voulaient en fait. C'est
ça
vraiment
bouge.
Aussi la volonté des femmes qui compte beaucoup dans ce domaine-là.
Ça bouge et dans le bon sens. Ouais. Merci Muriel Gilbert. On vous retrouve tous les samedis, tous les dimanches matins aussi pour votre chronique. Un bonbon sur la langue à 8h40 avec Stéphane Carpentier. Un dernier test pour les Bleus, EUES. Ce soir à 21h à Laval, l'équipe de France féminine affronte la nation la plus titrée du continent, l'Allemagne. C'est le dernier gros test avant la Coupe du Monde en France à partir du 7 juin prochain. La France a déjà battu le Brésil et les États-Unis 3-1 à chaque fois. Et on retrouve Pascal Pro avec qui vous allez dialoguer au 32-10 dans quelques minutes. Vous avez écouté attentivement ce journal, Pascal. Qu'est-ce qui vous a frappé ?
Attentivement, si la féminisation des noms de métiers peut nous éviter l'écriture inclusive, moi je signe des deux mains parce que l'écriture inclusive, vous savez, qui est en place parfois dans toutes les universités aujourd'hui. Hein. Si vous n'écrivez pas en écriture inclusive dans l'université, vous êtes en difficulté. Donc là, j'ai entendu effectivement Muriel Gilbert. Elle a raison, c'est la langue, c'est l'usage. C'est difficile de décréter quelque chose. Les gens s'en emparent ou pas. Et sapeuse pompière, j'ai peur que les gens ne s'en emparent pas. Mais on va poser la question entre 13h et 14h. C'est le 32-10. On posera également l'interrogation sur Robert Ménard qui interdit les drapeaux étrangers lors des mariages. Achetez-vous en priorité des produits français. Et puis les cigarettes qui augmentent. À tout de suite.
Merci Pascal. Et n'oubliez pas Pascal, demain, RTL Midi, en direct du Salon de l'Agriculture, le journal. Les auditeurs ont la parole. Vous venez nous voir. Vous êtes les bienvenus au stand 2-2 devant la Tour Eiffel de fruits et légumes. La météo, Patricia Charbonnier, la perturbation progresse cet après-midi.
C'est le début de la dégradation avec cette perturbation atténuée qui donne surtout des nuages sur une bonne partie du pays cet après-midi. Quelques averses en ce moment près des côtes de la Manche et sur le nord-ouest, mais les les averses vont gagner du terrain et se multiplier cet après-midi sur toute la moitié nord. Et ces averses seront localement fortes au nord de la Seine, avec une petite activité orageuse et du vent. Ça souffle aujourd'hui sur la moitié nord, jusqu'à 70 km/h en rafale. Alors que du côté de la Méditerranée, en fait, sur un large quart sud-est et près du golfe du Lion, c'est encore un temps très ensoleillé, avec des températures qui baissent cet après-midi. 13 degrés à Cherbourg et La Rochelle, 15 à Paris, 17 à Bordeaux et Biarritz, 19 à Toulon et 22 à Marseille.
Et demain, Patricia, des nuages et des températures en baisse.
Oui, les températures qui vont continuer de baisser. On va se rapprocher des valeurs de saison. Un temps très nuageux demain matin, en particulier sur le quart nord-est jusqu'au nord des Alpes et même tout au long de la journée avec le retour de la neige en montagne. Dans l'après-midi, quelques éclaircies se développeront sur la moitié ouest du pays. Ce sera toujours très ensoleillé dans le sud-est et les températures entre 1 et 10 degrés demain matin, 9 à 20 degrés dans l'après-midi. Ça baisse bien sur le nord à 9 degrés seulement à Lille. Demain après-midi, 12 à Paris alors qu'on avait 21 degrés hier. 12 à Paris et Nancy, 13 à Lyon, 15 à Toulouse, 20 degrés à Nîmes. Et c'est la tendance pour ce week-end, très contrasté. Sur la moitié sud, ce sera plutôt agréable, ensoleillé et printanier. Sur la moitié nord, des nuages, quelques pluies, surtout dimanche, des pluies assez soutenues au nord de la Seine.
Et on remet le pull.
À partir de la semaine prochaine, oui, vous êtes prévenus.
Il est 13h.
Le Tout Info, des auditeurs ont la parole sur RTL.
Et c'est bien avec Alexandre de Saint-Aignan aujourd'hui. Bonjour Alexandre.
Bonjour Bénédicte, bonjour à tous. 2 ans et demi après le démantèlement de la jungle de Calais, la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France pour le traitement dégradant d'un garçon afghan âgé de 12 ans. Il a vécu plusieurs mois dans la jungle, un bidonville, dans un environnement totalement inadapté à sa condition d'enfant, dans une précarité inacceptable au regard de son jeune âge, estime la CEDH, qui demande à la France de lui verser 15 000 euros pour dommages moraux. François Guénoc est le vice-président de l'Auberge des Migrants, une association qui vient en aide aux réfugiés dans le Calaisis.
C'est une victoire morale. Dans cette jungle, le gouvernement ne respectait pas ses propres lois, à savoir la prise en charge des mineurs et leur scolarisation. Dans la grande jungle de Calais, avant octobre 2016, les conditions de vie étaient vraiment mauvaises. Il y avait une classe qui avait été ouverte, qui accueillait quelques enfants, surtout amenés par leur famille. Mais les mineurs isolés étaient en général pas scolarisés, donc oui, les conditions étaient très mauvaises. Hélas, ce type de condamnation est souvent pas suivi d'effet par le gouvernement français. Bon, là, il y a une amende et une indemnisation. Vous me la prenez. La plupart du temps, les condamnations sont juste des condamnations morales. La France a l'habitude de s'asseoir sur ce type de condamnation, cette instance européenne n'ayant pas les moyens, en général, d'obliger la France à changer sa politique.
Le vice-président de l'Auberge des Migrants, joint par Mélina Fachin pour RTL. Le coût de la crise des gilets jaunes s'est alourdi. Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, estime que le mouvement social a entraîné un recul de 0,2 points de croissance trimestrielle contre 0,1 point auparavant. Les manifestations ne mènent plus nulle part, affirme Bruno Le Maire. Samedi dernier, pour l'acte 15 de leur manifestation, 46 000 gilets jaunes se sont mobilisés, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. 8,80 euros le paquet de Marlboro rouge, 8,50 euros les Camels sans filtre. Le prix des cigarettes va augmenter à partir de demain, 50 à 60 centimes de plus, conséquence de la hausse des taxes. Objectif affiché par le gouvernement, faire chuter les ventes de tabac en France. Le prix du paquet devrait atteindre les 10 euros l'an prochain. Des fruits et légumes tricolores chez Carrefour. Le PDG de l'enseigne de grande distribution était l'invité de RTL ce matin. Alexandre Bompard fixe un objectif pour cette année. 95% de fruits et légumes origine France dans les rayons de ses hypermarchés, ce qui représente un investissement supplémentaire de 50 millions d'euros dans l'agriculture française. Le président de Légumes de France, Jacques Rouchaussé, présent actuellement au Salon de l'agriculture, salue l'engagement du PDG de Carrefour.
Plus on va parler de l'origine France, plus on va donner le choix au niveau du consommateur sur nos origines. Je pense que c'est bien pour la production. Ça va encourager l'installation, je pense, de nouveaux producteurs. Ça va aussi favoriser ces circuits de distribution qui sont quand même pour nous très importants.
Le président de Légumes de France au micro RTL de Jacques Serret. Les journalistes algériens dans la rue contre la censure. Ils étaient une centaine tout à l'heure pour dénoncer l'absence de couverture des manifestations anti-Bouteflika dans les médias publics, avec des pressions imposées par leur hiérarchie, affirme-t-il. Une quinzaine de journalistes ont été interpellés dans le centre-ville d'Alger. Certains continuaient de manifester à midi. Le sommet de Hanoï s'est terminé sur un goût d'inachevé entre Donald Trump et Kim Jong-un. Aucun accord n'a été signé sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Officiellement, Washington et et Pyongyang se donnent plus de temps. La rencontre entre les deux leaders s'est terminée plus tôt que prévu, de façon abrupte, sur fond de discorde au sujet de la levée des sanctions américaines contre le régime communiste. À 13h04 sur RTL, on fait un point sur la Bourse de Paris en partenariat avec Investir les Échos. Bonjour Rémi Le Bailly.
Bonjour Alexandre.
Encore de faibles variations aujourd'hui.
Oh oui, et ça fait maintenant 2 semaines que le marché évolue à tout petit pas avec des variations quotidiennes inférieures à 0,70% à la hausse comme à la baisse. Et aujourd'hui, on fait vraiment quasiment du surplace avec une toute petite progression de 0,03% à 5227 points. Alors les choses pourraient changer en début d'après-midi avec la publication à 14h30 des chiffres du PIB du quatrième trimestre 2018 aux États-Unis. Un ralentissement assez net est attendu après un troisième trimestre qui avait été excellent avec une croissance en rythme annuel de 3,4%. Mais si le marché est assez stable, il y a pas mal de mouvements du côté de certaines valeurs. Air France KLM, qui avait, je le rappelle, chuté de 11,7% hier après l'annonce de l'entrée en force de l'État néerlandais dans le capital, cède encore 2,8% aujourd'hui. Hier soir, le gouvernement néerlandais a indiqué avoir porté à 14% sa participation dans la compagnie aérienne, un niveau quasiment équivalent à celui de l'État français. Carrefour, vous en avez parlé au début du journal, gagne 2,8% après la publication de résultats 2018 légèrement supérieurs aux prévisions et l'annonce d'une accélération de son plan d'économie.
Merci Rémi Le Bailly, bon appétit. Si vous êtes à table, entre le fromage et le dessert, décrochez votre téléphone, appelez Pascal Praud. Dans un court instant, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.